Bridget, tu as réussi à t'évader de la maison Fouquier, mais il est possible que des forces surnaturelles te contraignent à y retourner. Le fantôme Séraphin, terrifiant sorcier qui te hante depuis la veille, te dit que le seul moyen de lui échapper serait de retourner dans la chambre forte des Fouquier pour en retirer des graines qui lui rendraient une forme corporelle. Alors, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu retournes, tu acceptes de retourner à la maison Fouquier?
Bah, j'accepte, c'est-à-dire... Bah oui, bah j'ai pas le choix, donc je vais le faire. Enfin, j'essaye d'accepter cette idée-là, quoi.
Bon, et là, tu regardes avec un sourire cruel, tu acceptes, il dit... Maintenant.
Ah, tout de suite.
Tout de suite. Et là, tu vois, il y a les cadres sur les murs qui commencent à trembler.
Oh là là, c'est non négociable. Enfin, très bien. Bah, je vais voir Thérèse et je lui dis, bon...
Elle me trouve bizarre.
Est-ce qu'il y a une solution pour... Enfin, il faut que je retourne voir mon ami Paul. Faut que...
Très bien.
Est-ce qu'il y a une voiture, quelqu'un qui peut m'emmener sur le domaine?
Elle te dit que non, il faut attendre qu'il retourne. Et là, il y a des couteaux de cuisine sur le plan de travail qui commencent aussi à trembler dans la rétuite.
Ouais, je vais pas y retourner à pied, quand même.
Si. Clairement.
Je lui demande, vous connaissez personne dans le village qui pourrait éventuellement...
Elle s'énerve. Elle dit, bon, vous m'agacez maintenant. Je vais donner à boire, donner un lit. Qu'est-ce qu'il vous faut?
Oh là là. Bon bah je me mets en marche alors hein.
Elle est très très désagréable.
Bon bah je sors de la maison là parce que je suis suffisamment stressée, j'ai pas besoin de qu'elle m'énerve.
Bon bah tu avances et à chaque fois tu vois, à chaque fois tu le dépasses mais il est toujours devant toi. Et il te dit qu'il est très impatient et il a un petit sourire sadique, il est très 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 très...
Oui bah je lui réponds, bon je vous ai dit que j'allais les faire, mais physiquement c'est impossible d'aller plus vite, à moins que vous ayez une
solution. Mais vous avez la chance d'avoir un corps. Je pourrais vous posséder, peut-être que j'en ferai un meilleur usage que vous.
Non, non. Non, je vais marcher vite.
Ok, bon bah en fait il va te poursuivre tout du long, il va te menacer tout le temps. Tu obtempères pour aller plus vite possible.
Ouais.
Tu vas finir par arriver dans la soirée, jusqu'à la maison Fouquier. Tu seras exténué et dans vraiment un sale état. Donc ouais. Tu peux te mettre comme faiblesse du coup, même pas besoin de faire de jet. Tu te mets comme faiblesse... À bout de force.
Ok.
Donc c'est comme ça que ça va se passer. Le médecin va être très surpris de ne pas te voir chez lui à ce moment-là. Mais au moins, le fantôme ne passe pas à exécution dans ses menaces.
Oui.
Ok, ton cas est géré jusqu'à la soirée. On va retourner à l'intrigue de Dionée et Samuel, qui va rejoindre Dionée, qui est allé dans le cabinet d'études de sa grand-mère, au deuxième étage. Ce deuxième étage que vous avez peu exploré. Tu as une clé qui t'a été communiquée par Agnès. Tu finis par trouver l'endroit. Tu fais jouer la clé.
Ah ouais, j'ai trop hâte, là.
Samuel est avec toi, déjà?
Ouais, je l'ai rejoint.
Il me colle.
Ouais. Alors, tu fais jouer la clé et tu l'ouvres sur une très belle pièce avec des meubles en bois sombre qui montent jusqu'au plafond. Il y a des bibliothèques un peu partout. Il y a surtout un vrai petit cabinet de curiosité.
Ah, je suis fasciné, moi.
Voilà, tu vois, il y a Samuel, tu regardes. Il y a tout un tas de...
Samuel, aidez-moi. Faut que je trouve les notes de ma grand-mère. Arrêtez de regarder toutes ces babioles.
Bien sûr, je suis là pour vous, voyons. À quoi
dommage.
Ça ressemble?
Je cherche comme des notes personnelles, quelque chose comme ça.
Quelque chose qui permettrait de les reconnaître, les distinguer du reste?
Je sais pas, je sais pas ce que je cherche, vraiment.
Tu l'aides, Samuel, ou tu continues
à... Oui, bien sûr, je lui lèche les bottes, d'ailleurs, au passage, et puis je la flatte de temps à autre.
Oh, et quelle bassesse. Très bien, alors vous allez faire tous les deux un jet de lucidité. Il y en a un qui a le plus en lucidité, fait le jet de lucidité, et l'autre peut l'aider.
Je suis lucide pour deux.
Et si jamais ça rate, pas toi, hein, mais Dionée, tu vas ouvrir un compartiment piégé. Parce qu'il y a un piège dans ce cabinet.
Je déjoue le piège.
Ah oui, c'est bon, t'as suffisamment. Ok. Eh ben oui, il y a dans une bibliothèque, il y a un compartiment secret, en fait. C'est vraiment un de ces trucs à l'ancienne, hein, où on tire un bon bouquin et un truc qui pivote, et tu peux trouver les notes de ta grand-mère en bon ordre, même reliées, en fait. Il y a un vrai livre de notes où c'est l'écriture manuscrite de ta grand-mère, la très belle écriture de ta grand-mère, que tu découvres, et tu ouvres un livre qui te fascine d'emblée.
En fait, il y a un livre et des notes ou...
Non, je me suis mal exprimé. Ouais. En fait, c'est les notes de ta grand-mère qui ont été compilées sur la forme d'un livre. Elles ont été reliées ensemble.
Mais ça reste manuscrit.
C'est manuscrit.
D'accord. Ah bah, je suis à fond, ouais.
Alors, tu l'ouvres et tu vois, c'est un mélange un peu bizarre de journal intime, de mémoire d'une vie et d'essais scientifiques et philosophiques même. C'est très très mélangé. Ouais. Alors, c'est des feuillets qui sont en fait d'une lecture assez agréable. Quoique, c'est souvent déstabilisant parce que les souvenirs se mêlent aux observations scientifiques et ça aboutit à des conclusions métaphysiques très inattendues en général. C'est très très bizarre. C'est un peu comme le mélange qu'il y avait dans les notes des jumeaux, vous vous rappelez, dans l'observatoire. C'était un fatras de poésie, d'astronomie, de mathématiques. Quelque chose un peu dans ce goût-là, très hétéroclite. Alors, l'écriture est gracieuse, même élégante. Les mots s'enroulent comme des rubans délicats, évoquant la préciosité du XVIIIe siècle. Mais la régularité parfaite des lettres parle aussi d'une force de caractère, d'une maîtrise de soi peu commune. Sur la première page, tu ouvres le livre, première page, tu vois un titre évocateur. Elle a mis un titre à ses notes, c'est « L'achèvement des espèces ».
D'accord.
Il y a une date en dessous, 1876.
Ça colle, elle avait quel âge?
Elle est morte, elle devait avoir 80 ans, elle est morte donc il y a 6 ans, donc en 23.
Enfin, elle avait 50 ans.
Ouais, non.
Non, elle est morte en 1921 à l'âge de 80 ans.
Ok, voilà. Et il y a une citation assez longue, en dessous, du philosophe Friedrich Nietzsche, de « Ainsi parlait Zarathoustra ». Alors, c'est pas noté forcément, c'est Samuel qui arrive à identifier l'origine. Je vais vous la lire. Elle l'a mis en exergue de son bouquin. Donc ça veut dire que pour elle, ça a une importance. Il y a marqué, elle l'a recopié scrupuleusement. Zarathoustra, cependant, regardait le peuple et s'étonnait. Puis il dit, « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson et arrêt dangereux. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont, et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. J'aime ceux qui ne cherchent pas derrière les étoiles une raison pour périr ou pour s'offrir en sacrifice, mais ceux qui se sacrifient à la terre pour qu'un jour la terre appartienne au surhumain.
Votre grand-mère avait bon goût, c'est un de mes passages préférés.
Donc voilà, donc c'est un peu étonnant. Tu te mets à le parcourir un petit peu. Le premier chapitre, je vais entrer un peu dans les détails, est-ce que ça, pour te donner une idée du contenu, ça te va?
Ouais.
Ok, premier chapitre, ça évoque les origines familiales de l'autrice. Donc du coup, ça te parle directement. Ça commence comme ça. Chapitre 1, la maison Fouquier. Je suis le rejeton d'une race ancienne et orgueilleuse. Une race dont l'antiquité excède de beaucoup celle des familles les plus nobles du royaume de France. Ni les Rohan, ni les Mortemar, ni les Clermont-Tonnerre, ni même la maison royale des Capétiens n'approche de la vieillerie extravagante où la famille Fouquier plonge ses origines. Les arbres généalogiques les plus prestigieux ne sont que des arbrisseaux au prix des nôtres, des forêts chétives, de minces affleurements de racines où la lignée ininterrompue de mes ancêtres court et court et court sans fin, réseau archaïque, tentaculaire et invisible, comme le mycélium des champignons. Pourtant, rien de plus étranger à l'idéal de la noblesse chevaleresque qu'un Fouquier. Il y a chez nous quelque chose d'ignoble et de repoussant, qui a toujours rebuté les aristocrates, malgré notre ancienneté, ou en raison peut-être de cette ancienneté. Comme si la proverbiale nuit des temps, d'où nous sommes issus, nous avait laissé une marque noire sur le visage. C'est en tout cas comme cela que je m'explique notre relative insignifiance dans l'histoire de France. Notre blason, figurant deux coupes, l'une d'argent, l'autre de sinople, se vidant l'une dans l'autre, est ainsi le grand absent de l'armorial français. De même, il est clair que les grands seigneurs n'ont jamais recherché la main des demoiselles Fouquier avec beaucoup d'ardeur. Il semble d'ailleurs que les rares mariages prestigieux que les Fouquier ont réussi à obtenir l'aient été au prix de marchandages honteux, d'extorsions scandaleuses qui ont toujours épouvanté ceux qui se trouvaient réduits à cette extrémité. Épouser une Fouquier, quelle horreur! Pourtant, le marché n'était pas si mauvais. Au-delà du montant des dots, toujours extravagant, les jeunes épouses Fouquier étaient réputées pour leur étrange fertilité. On dit que le plus souvent, elles tombent enceintes le soir même de la noce, et que 9 mois plus tard, parfois 8, parfois 7, elles avaient l'amabilité de mourir en couche, non sans avoir gratifié le jeune époux d'une explosion de triplés, de quadruplés, voire de quintuplés.
Des mâles, j'espère.
Pas toujours. Donc voilà, c'est pour donner le ton du truc. Donc, elle parle de ses origines familiales. Et tu vois, en fait, elle dit, bon, là, je vais paraphraser, qu'en fait, elle a refusé. Elle a vu qu'en fait, d'où vient la famille des Fouquier, d'où vient, pardon, la fortune des Fouquier, c'est un peu mystérieux, mais ils se sont toujours servis à des fins de pouvoir pour étendre leur influence par des mariages, en contraignant les femmes, en fait, à épouser tel ou tel personnage influent. Alors, pour autant, ils ont une si mauvaise réputation qu'ils ont eu du mal à s'allier avec les plus grandes familles, mais ils ont réussi à avoir une influence très importante pendant l'Ancien Régime. Donc tu vois, c'est assez long, c'est assez parfois intéressant, parfois ennuyeux, mais ça te donne plus d'arrière-plan et une connaissance que tu n'avais pas sur ta propre famille. Et tu vois qu'elle, elle a refusé de se marier, parce qu'elle savait que si elle tombait enceinte, il lui arriverait exactement les mêmes choses qu'à ses ancêtres. Parce qu'elle disait, elle avait un très bon souvenir dans sa jeunesse, d'avoir été la victime d'une sorte de rituel qui devait la préparer à un mariage. Et elle savait que ce serait sa mort. Donc elle a refusé de se marier. Alors, premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est 1876. C'est une date cruciale chez elle parce qu'elle découvre deux livres très importants qui ont changé sa vie. Elle découvre un traité de Darwin sur les plantes carnivores. Et elle découvre Nietzsche. Elle découvre l'œuvre de Nietzsche au même moment. Et en fait, ça va la lancer dans les études philosophiques et scientifiques. Il faut savoir que Darwin, donc c'est celui qui a l'origine de l'évolution de l'origine des espèces, du coup tu comprends mieux le titre, l'achèvement des espèces. Il était fasciné par les plantes carnivores, il a fait plein d'expériences dessus, et elle a décidé de les reproduire chez elle, dans son domaine. Sauf que là, elle a découvert que les plantes carnivores de son domaine ne se comportaient pas du tout de la même façon que telles que les décrivait Darwin. Alors, Darwin était mort quand elle a commencé à vraiment avoir une vraie compétence en biologie, mais elle a invité son fils, qui avait participé à ses recherches, pour venir avec elle, et ils ont eu une vraie idylle ensemble.
Je touche la main de Dionée en même temps à ce moment-là.
Ok. Je suis un petit peu trop plongé dans le truc, du coup je réagis pas, mais... Est-ce que c'était les mêmes espèces que Darwin qui étudiait?
Alors Darwin s'intéressait surtout aux Drosera, et il a même déclaré, ça c'est authentique, « Je m'intéresse plus aux Drosera qu'à l'origine de toutes les espèces sur Terre. » Il dit, c'est vraiment, ça le fascinait. Elle, c'était plus... Il y avait des Drosera, il y en a beaucoup dans les marais autour, il y a aussi des Dionées.
Non, mais du coup, quand elle dit qu'elle trouve qu'elle se comportait différemment, c'était exactement les mêmes espèces qui se comportaient différemment?
Tu avais l'impression, d'accord, mais elles avaient un comportement radicalement différent. Okay. Notamment, il a testé plein de choses de Darwin sur ce qu'elles étaient capables d'assimiler. Il a testé de la viande crue, il a testé des graisses animales, etc. Ça marche. Par contre, il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Elle ne digère pas, je crois, les huiles végétales, des choses comme ça. Alors qu'elle, elle avait constaté des résultats radicalement différents et qu'elles étaient en fait très voraces, y compris de choses végétales et d'à peu près tout. Donc, ça a un peu intrigué. Et ils ont eu une sorte d'aventure romantique et scientifique donc avec le fils de Darwin, tu vois. Alors, tu comprends pas trop parce que tu te rappelles ton grand-père. Enfin, elle a eu des enfants, finalement. Donc, ça colle pas trop avec ce que tu connais de sa vie. Donc, c'est un peu mystérieux jusque-là. Donc tu parcours les notes, tu continues, tu te fais toujours une haute opinion, je pense, d'elle-même dans sa façon de raconter les choses, tu passes un peu les chapitres, et tu arrives à un moment où elle dit qu'elle a élucidé, d'un même coup, les mystères qu'il y avait sur ses origines familiales et la bizarrerie de la flore dans la maison Fouquier. Elle dit en fait que c'est pas les plantes elles-mêmes qui sont anormales, c'est
terreau.
Dans la terre, il y a des filaments presque invisibles qu'on appelle le mycélium, qui en fait en masse est monstrueux, c'est-à-dire que dans un hectare il y a beaucoup plus de mycélium que de matière végétale, c'est énorme, mais c'est presque invisible. C'est les champignons, nous ce qu'on appelle des champignons, c'est, donc elle te dit tout ça, mais c'est tout que tu connaissais, c'est juste la partie émergée d'iceberg en fait, c'est juste leur organe reproducteur en fait, mais tout le reste, ce qui leur permet de digérer, d'explorer, de se répandre, etc., c'est une sorte de grand réseau invisible. Et en fait elle disait qu'il y avait un champignon d'une espèce absolument inconnue et aux propriétés unique en son genre, qui ont complètement transformé non seulement le terrain, mais aussi ceux qui y habitent depuis des siècles, qui sont les Fouquier. Mais en fait, déjà, ces mycéliums-là, dans la nature, sont des phénomènes symbiotiques. Ça veut dire que c'est un mélange entre le champignon lui-même et d'autres éléments. Et en fait, c'est les interactions chimiques entre les deux éléments qui leur permettent de vivre. Mais ils ont besoin d'une symbiose. Et en fait, il y a une symbiose qui existe entre les Fouquier, ce champignon, et la terre où vous habitez.
C'est passionnant, ça.
Voilà, donc ça, c'est ce que tu apprends. Alors, elle dit qu'elle a prélevé des quantités astronomiques de ce champignon.
Est-ce qu'elle parle d'un laboratoire ou quoi dans le domaine où elle aurait fait ses expériences sur le mycélium?
Alors, elle en a fait ici même, dans le domaine. Elle a très peu quitté son domaine.
Il y a des relevés ou a priori dont elle parle dans le bouquin?
Il y a des passages entiers qui sont des passages scientifiques, effectivement.
Ok, trop bien.
Est-ce que vous y allez, du coup, vous commencez à l'éplucher?
Moi, ouais, je le fais.
Ouais,
moi non, mais Samuel est là. Qu'est-ce qu'on en conclut de ces tableaux, là?
Il y a beaucoup de choses. C'est, tu vois qu'elle était d'un niveau assez impressionnant.
Ouais, c'est surprenant, surtout pour une femme à son époque.
Exactement, c'est ouais. Tout à fait unique. Alors, elle l'appelle le scototrophe. Elle a forgé elle-même ce nom. Toi, tu connais tes racines grecques, ça veut dire celui qui se nourrit d'obscurité.
Ok, très bien.
Parce qu'en fait, les champignons ne sont pas des plantes, des végétaux, parce qu'ils ne font pas de photosynthèse.
D'accord.
Ils ne synthétisent pas la lumière du soleil en énergie, ils en sont incapables. En fait, ils se nourrissent de matière organique autour d'eux. Mais lui, non seulement il ne se nourrit pas de lumière, mais en plus, il peut parfaitement se développer en absence totale de source d'énergie. C'est un peu confus hein, dans ces notes. C'est en fait un être, elle dit, qui est peut-être aussi ancien que la Terre et qui s'enfonce très profondément dans la croûte terrestre, en fait. C'est un être qui, il y a des milliards d'années, a éclos, on sait pas trop comment, c'est pour ça qu'elle appelle le scototrophe, et de se nourrir de ténèbres, c'est pas possible, c'est une sorte d'impossibilité, au fond de la Terre, et qui a grignoté sa voie vers la surface.
Ouais, c'est fascinant. Mmh. Ça me parle ou je l'apprends?
Pas du tout, ça te paraît complètement impossible.
Ah, d'accord, voilà. Ok.
C'est...
Ah, mais en même temps, je vois qu'elle a l'air d'avoir, comme tu disais, un niveau. Je peux croire quand même à ce qu'elle dit.
Elle parle des problématiques qui te viennent en tête, et même si elle n'a pas toutes les réponses, elle propose. Elle analyse comment il se développe, et une de ses hypothèses, c'est qu'en fait, même si l'homme n'est pas du tout au courant de ça, en l'absence de vestiges explorables, elle pense qu'il y a eu des civilisations souterraines et très très anciennes, pas forcément humaines, peut-être humaines, et qu'en fait, le champignon a grignoté tous ces empires étagés les uns au-dessus des autres jusqu'à la surface.
D'accord. Okay.
Elle dit que elle a réussi à entrer en communication avec lui.
Qu'est-ce qu'elle dit d'autre là-dessus?
Elle dit que il a des moyens de communication qui semblent obéir à une syntaxe, à une grammaire. Et il y a des passages entiers qui sont de la linguistique, où elle essaye de dire comment il s'exprime. Et elle dit qu'il obéit à des coutumes. Donc, elle pense qu'il a une culture, en fait. Et en fait, c'est sa supposition qu'il a assimilé des civilisations. Elle dit qu'il est... C'est le plus gros être vivant qui existe sur Terre. Elle pense que la Terre, en résumé, c'est le scototrophe. Et que nous, on n'est que des insectes qui rampent à la surface.
Et du coup, on dirait que oui, il y a une sorte de... Même de... Ils ont une genre de conscience, etc., quoi, d'après elle, quoi. C'est... Ouais.
Oui. Et elle dit que malheureusement, les civilisations qu'il a pu assimiler n'étaient pas du tout des civilisations pacifiques. D'accord. Et qu'au contraire, ils ont des mœurs tout, extrêmement brutales et barbares et dégénérées. Elle pense qu'en fait, le scototrophe est un être intelligent, mais frappé de folie. Complètement. Folie meurtrière. Et elle dit que sa mission, puisque c'est l'être le plus extraordinaire qui soit sur Terre, puisqu'en fait c'est le seul être qui soit sur Terre, à son sens pratiquement, elle veut en faire sa mission, de l'élever en fait, sur le chemin du bien.
Qu'il puisse s'étendre en fait, quoi.
Qu'il puisse encore s'étendre à la surface, que l'humanité puisse fusionner avec lui.
Mais elle veut le rendre meilleur aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est un truc de femme, ça.
Je peux le sauver.
Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ça.
Voilà, donc c'est ce que vous découvrez éberlué au terme de 2 ou 3 heures de lecture.
Ok. Ouais, mamie, je te suivais au début là, mais.
Ouais, comment tu réagis?
Ça me paraît colossal comme objectif.
Ouais, bon, bah là, vous avez eu, on va dire, une très grosse partie de la vérité. On va voir comment vous gérez la suite et les conséquences de cette lecture.